Vous écoutez France Inter et vous avez bien raison parce qu'il est 19h. Le journal, bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, vague et fragile, l'accord sur les migrants obtenu à Bruxelles la nuit dernière, plateforme de débarquement en dehors des frontières de l'Europe, centre contrôlé sur le sol européen, tout cela sur la base du volontariat des pays. Avant le Panthéon dimanche, dernier hommage à Simone Veil au mémorial de la Shoah à Paris aujourd'hui et demain, le recueillement de centaines de personnes devant son cercueil. Dans le Bordelais, 10 domaines viticoles, propriété d'un millionnaire chinois saisi après une enquête financière. Le dossier du chlordécone, ce pesticide dangereux qu'on trouve dans les aliments aux Antilles, la justice administrative devra se prononcer sur les seuils autorisés. La Coupe du monde de football, avant d'affronter l'Argentine demain après-midi, les Bleus conscients qu'ils devront se dépasser. Un vaste projet immobilier pour changer en 10 ans l'image des Champs-Élysées, et puis un conseil de lecture pour ce week-end, le nouveau livre de Colomb Schneck, Les guerres de mon père.
France Inter.
Une nuit blanche, 9 heures de discussion et ce compromis, cet accord au petit matin accepté par les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles. Objectif, améliorer la coopération sur la question migratoire. Bertrand Galichet, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. Vous avez suivi de bout en bout ce sommet. L'accord laborieusement mis au point est basé sur le volontariat. Il est donc fragile.
Oui, Pierre, un accord qui ne règle pas tout, comme le reconnaît Emmanuel Macron, mais pour le président, il y avait une priorité, régler la crise politique qui mettait l'Europe en péril, davantage même que la question migratoire, puisque les arrivées ont diminué des trois quarts ces derniers mois. Il fallait donc parvenir à un compromis à Bruxelles. C'est chose faite ce soir, même si cet agenda européen pose beaucoup de questions. La France tient à une stratégie de coopération avec les pays de départ et de transit, comme le Niger ou la Libye, par exemple. Les plateformes de débarquement en Afrique n'auraient pas vocation à devenir des points de fixation, mais seraient destinées à reconduire les migrants chez eux en sécurité. Voilà pour la théorie. Autre volet, la création de centres fermés en Europe destinés à faire le tri entre migrants économiques et réfugiés. Ces centres financés par l'Union européenne seraient implantés dans des pays volontaires, mais pas question d'en avoir sur le territoire français, explique Emmanuel Macron.
La France, qui n'est pas un pays de première arrivée, compte tenu de sa situation, n'ouvrira pas de centre de ce type. Mais les pays qui aujourd'hui sont des pays de première arrivée et qui portent seuls la charge de ces dites arrivées auront un financement et une solidarité européenne grâce à cette solution, s'ils la souhaitent. Et typiquement, c'est le cas exprimé par la Grèce, et nous verrons ce que l'Italie dit. Après, il appartient à l'Italie de choisir, mais l'Italie solliciter une solidarité européenne, c'est la réponse en termes de solidarité européenne qui a été apportée.
Une démonstration politiquement plus difficile à faire accepter, même si ce projet a été porté à la fois par la France et l'Italie. Une fois examinée leur situation, les réfugiés qui ont droit à l'asile, un petit nombre en fait, seraient répartis dans les pays d'Europe qui voudraient bien les accepter. L'absence de tout dispositif contraignant réjouit la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Autriche. Le président du Conseil européen ne s'y trompe pas, estimant qu'il est trop tôt pour parler de succès. Donald Tusk dit que l'accord politique intervenu ce matin à l'aube était la partie la plus facile. Comparé à ce qui nous attend sur le terrain, quand ces mesures commenceront à être appliquées, un bon résumé de la situation.
Bertrand Galichet à Bruxelles avec les moyens techniques d'Olivia Branger. L'Europe sauve les apparences, pas d'implosion avec cet accord vague. En Italie, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, estime que globalement il a obtenu gain de cause lors de ce sommet à Bruxelles. Il réaffirme sa ligne intransigeante face aux migrants. À Rome, Mathilde Lamberti.
Les ONG verront l'Italie seulement en carte postale. La formule est de Matteo Salvini ce matin au micro d'une radio romaine. Le ministre italien de l'Intérieur maintient une ligne dure. Les ports resteront fermés aux ONG cet été, non seulement pour débarquer les migrants, mais aussi pour leur fourniture en carburant, ajoute-t-il pour lever tout malentendu. Matteo Salvini se dit fier des résultats obtenus à Bruxelles. L'accord met à l'écart les ONG et laisse la main aux Libyens pour l'essentiel des sauvetages. Il prévoit de renforcer le soutien aux garde-côtes libyens et appelle les navires opérant en Méditerranée à ne ne pas leur faire obstacle. Ce passage revendiqué comme une victoire par le gouvernement soulève l'indignation d'associations comme Médecins sans frontières Italie, horrifiées devant le nombre de morts en Méditerranée, 200 la semaine dernière, encore 100 aujourd'hui, et le renvoi systématique des migrants vers des centres de détention libyens. Les autres points de l'accord concernant l'Italie, ils se mettront en œuvre sur la base du volontariat, la création de centres pour migrants dans les autres pays d'Europe, mais aussi la répartition des demandeurs d'asile. L'Italie exigeait des quotas par pays, elle n'a pas été suivie. La satisfaction après une nuit de dures négociations pourrait rapidement se transformer en déception. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Médecins sans frontières critique l'accord, accusant les pays de l'Union européenne de s'être mis d'accord sur le blocage des personnes aux portes de l'Europe. Le communiste Yann Brossa juge que l'Europe se déshonore en dissuadant les demandeurs d'asile de venir. Un accord de façade, en réalité on ne s'est entendu sur rien, c'est ce que dit Laurent Wauquiez, le président du Parti des Républicains. Pour Marine Le Pen, ce texte ne règle pas, je la cite, le problème de la subversion migratoire. Et aujourd'hui, un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée. 3 bébés sont morts et 100 de personnes sont portées disparues, dont des femmes et des enfants, lors d'un naufrage au large des côtes libyennes. En Syrie, plus de 120 000 personnes sur les chemins de l'Exode, conséquence du déclenchement d'une offensive des forces pro-Assad dans le sud-ouest du pays il y a 10 jours. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des milliers de civils sont regroupés à la frontière jordanienne et des milliers d'autres se sont rapprochés du plateau du Golan, annexé par Israël.
Hommage à Simone Veil avant son entrée au Panthéon dimanche.
Oui Claire, c'est au mémorial de la Shoah à Paris aujourd'hui et demain. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir se recueillir devant les cercueils de Simone Veil et de son mari Antoine dans la crypte de ce lieu de mémoire du génocide juif pour lequel l'ancienne déportée d'Auschwitz a beaucoup œuvré. Dès l'ouverture ce matin, de nombreuses personnes étaient déjà présentes. Reportage, Benjamin Mathieu.
Ils sont une 50 de personnes à attendre l'ouverture du mémorial, des anonymes comme Georges et Claude, les premiers à rentrer.
Parce qu'elle est un symbole très fort de liberté, de courage et de dignité. Quel exemple !
Pour moi, c'est un devoir de mémoire. C'est rendre hommage à une femme qui a eu de merveilleux combats.
Il faut descendre quelques marches pour arriver dans la crypte. Les cercueils de Simone et d'Antoine Veil sont recouverts du drapeau français, juste devant une étoile de David en marbre noir.
Villard, Caroline.
Une voix rappelle les noms des 1499 déportés qui ont pris le même convoi que Simone Veil le 13 avril 1944 de Drancy pour Birkenau.
Willig, Alexandre.
Dans la cour, Jean-Paul, qui passe sur la tête, est en train d'écrire dans le livre d'or.
Ma mère et mon père ont été déportés. Donc j'ai mis leur matricule et voilà, enfin pour moi c'est une femme exceptionnelle de par son parcours, sa résilience, son humanisme, c'est un être exceptionnel.
Le cortège funèbre partira du mémorial de la Shoah pour le Panthéon dimanche matin, il est encore ouvert au public jusque demain soir.
Reportage de Benjamin Mathieu et puis dimanche, cérémonie au Panthéon pour Simone Veil et son époux. Un millier d'invités, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, de nombreux élus. Emmanuel Macron prononcera un discours, Barbara Hendricks chantera la Marseillaise et puis l'imposant portail du Panthéon s'ouvrira pour laisser entrer Simone et Antoine Veil, dont les cercueils seront exposés jusqu'à lundi avant de rejoindre la crypte où ils reposeront près de Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le père de l'Europe. Émission spéciale sur France Inter dimanche à partir de 10h. Émission animée par Ali Badou et Florence Paracuelos pour suivre en direct donc cette cérémonie au Panthéon. Dans le Bordelais, 10 domaines viticoles, propriété d'un investisseur chinois, ont été saisis par la justice. C'est le résultat d'une longue enquête menée par le parquet national financier et Tracfin, le service de Bercy qui lutte contre les trafics et mouvements financiers suspects. La saisie porte sur près de 30 millions d'euros. Enquête à Bordeaux de Pierre-Marie Gros.
Les agences immobilières spécialisées dans la vente de domaines viticoles sont formelles. Les procédures pour contrôler l'origine des fonds lors d'une acquisition sont très strictes et Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, souvent sollicité. Sauf que dans ce cas, les 30 millions d'euros qui ont servi à ces transactions ont été prêtés par une banque chinoise basée à Paris, un prêt obtenu à partir de faux actes notariés. De plus, la police judiciaire de Bordeaux et l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière judiciaire chargée de l'enquête ont découvert des montages financiers plus que douteux, notamment via des sociétés offshore basées à Hong Kong, d'où la saisie de ces 10 châteaux pour diverses infractions, faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale. Le fameux homme d'affaires chinois possède 14 autres propriétés dans le Bordelais qui, elles, pour l'instant, ne sont pas concernées. Mais l'enquête se poursuit. Les activités de son groupe sont multiples en Chine, du transport maritime à l'immobilier en passant par les parcs de loisirs.
Pierre-Marie Gros de France Bleu Gironde.
Une nouvelle étape judiciaire dans le dossier du chlordécone.
Oui, ce pesticide très toxique a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies aux Antilles. La quasi-totalité des Guadeloupéens et Martiniquais se retrouvent contaminés par ce produit, provoquant des maladies, parfois des cancers ou des allergies. Le chlordécone a aussi pollué les aliments d'origine animale et végétale. Les seuils autorisés dans ces aliments ne protègent pas assez la population, d'après une association. Sandy Dauphin, cette association a déposé un recours devant la justice administrative.
Les Guadeloupéens ne savent plus ce qu'ils peuvent manger sans risque, estime aujourd'hui Philippe Verdol, président de Envie Santé. Cette association dépose un recours devant le tribunal administratif contre un arrêté de 2008 qui fixe les limites maximales de résidus de pesticides autorisés dans les aliments, des seuils contestés.
Elle ne respecte pas le principe de précaution.
En 2017, pourtant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime que les limites maximales de résidus protègent suffisamment la population, un avis de l'ANSES qui provoque l'incompréhension de l'association.
Le rapport dit noir sur blanc que après analyse du sang, de l'urine et des cheveux des Antillais, après analyse de leur mode d'approvisionnement, il apparaît que ceux qui sont le moins impactés sont ceux qui vont acheter dans les supermarchés. Ça veut dire manger pas local, puisque les supermarchés, c'est essentiellement des produits d'importation qu'ils ont.
L'association Envie Santé parle aussi de discrimination, dénonce une réglementation moins protectrice par rapport à la métropole. En Europe, les limites maximales de résidus autorisées pour les pommes et les poires sont deux fois moins élevées que pour les fruits tropicaux des Antilles.
Le chlordécone, enquête de Sandy Dauphin. Demain, 16h, pour celles et ceux qui aiment le foot, on ne répond plus au téléphone. Pas de rendez-vous sur l'agenda, pas de course pour les soldes, mais rendez-vous avec le suspense, la tension, la dramaturgie et le sport. Le début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, France-Argentine. Fini les matchs de poule qui ne bloquaient pas complètement l'avenir. Maintenant, en huitièmes de finale, celui qui perd, il s'en va. Les Français face à un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur, Lionel Messi. Quelle stratégie face aux Argentins? Cet après-midi, Didier Deschamps et Hugo Loris ont rencontré la presse. Sébastien Hazard est l'un de nos envoyés spéciaux en Russie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Les Bleus sont conscients qu'ils devront se dépasser.
Ah, c'est le moment de briller, hein. C'est le moment de se réveiller aussi. Les Bleus jouent leur crédibilité face à l'Argentine. Tout donner pour ne rien regretter, c'est le message d'Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France.
On se doit d'être à notre meilleur niveau. On sait également qu'un joueur comme Messi peut décider du sort du match comme il a l'habitude de le faire. Donc il faut être prêt à donner des réponses collectives. Il va falloir se surpasser si on veut espérer passer ce tour.
Conscient de l'enjeu, hein, le gardien de but tricolore, son homologue argentin pourrait dire à peu près la même chose. Excepté les propos sur Messi, bien sûr, la sélection argentine tourne au ralenti dans ce mondial. Les Français n'ont pas non plus été emballants, mais les huitièmes de finale, c'est une toute autre affaire, assure le sélectionneur Didier Deschamps.
L'impression qu'ont pu laisser les équipes dans la phase de poule, j'irais même jusqu'à dire que les compteurs ils sont pratiquement remis à zéro parce que c'est une nouvelle compétition et là, ça passe ou ça casse, donc il n'y a pas le choix.
Il a l'habitude de ce genre de rendez-vous, le barrage face à l'Ukraine pour aller à la Coupe du Monde 2014, la finale de l'Euro il y a deux ans. Ce huitième de finale se situe à une altitude comparable. Plus de calcul, de nul soporifique arrangeant tout le monde. Comme face au Danemark, cette fois-ci, c'est sans filet.
Sébastien Hazard avec les moyens techniques de Pierre Quintard en Russie. Rendez-vous donc demain à 16h. Retour historique en 11 confrontations avec l'Argentine. Les Bleus ne l'ont emporté qu'à deux reprises. Il y a eu 3 nuls et 6 défaites, notamment il y a 40 ans lors de la Coupe du Monde en Argentine. Le 6 juin 1978, ils ont gagné les Argentins et nous ont éliminés. Le pays était alors sous la coupe du dictateur Videla. Marius Trésor était à l'époque défenseur des Bleus. Il se souvient.
C'est un pays où il y avait beaucoup de problèmes politiques. Tout était fait pour que l'Argentine soit championne du monde et c'est ce qui est arrivé. Cette équipe, c'est vrai, en son sein, il y avait de merveilleux footballeurs, hein, Ardiles, Passarella, Luque, Kempes. Mais à côté, il y avait des travailleurs de l'ombre qui permettent à une équipe, quand elle veut aller loin, de compter sur eux. Et c'est ce qui est arrivé. En plus, on se rappelle le match contre le Pérou, où le gardien du Pérou est un ancien argentin naturalisé péruvien et qui prend 5 buts parce qu'il fallait pratiquement ce chiffre-là pour que l'Argentine puisse, devancer le Brésil.
Voilà, Marius Trésor, c'était il y a 40 ans. On verra demain à 16h. Autre 8e de finale, demain en Coupe du Monde à 20h, Uruguay-Portugal. Les Champs-Élysées sont-ils toujours la plus belle avenue du monde? Entre la circulation dense, les grandes enseignes d'habillement et les flots de touristes, l'avenue parisienne a perdu de sa superbe. Le comité Champs-Élysées, qui regroupe entreprises et commerçants, veut redorer l'image des Champs avec un immense projet pour les 10 années à venir. Objectif, redonner aux Parisiens l'envie de flâner sur les Champs. Reportage Sébastien Sabiron.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.
Une promenade bordée d'arbres sous le Second Empire, des cirques et des cabarets au début du 20e. Aujourd'hui, les Champs-Élysées, c'est plutôt ça.
Trop touristique, trop de monde, trop peuplé.
Bruyant, pollué, c'est un peu démodé, quoi, c'est has-been.
Il faudrait peut-être que ce soit piéton, vraiment qu'il y ait plus de kiosques, par exemple, au milieu.
Si on interdit complètement la circulation, ça serait carrément agréable.
Sans aller jusque-là, Jean-Noël Reinhardt veut faire revenir les Parisiens sur les Champs. Ancien PDG de Virgin France, notamment, il préside le comité Champs-Élysées.
Les Parisiens n'ont pas forcément envie de se retrouver dans un milieu avec 200 000 piétons, 60-70 000 voitures tous les jours. Donc il faut rendre les Champs-Élysées moins anxiogènes.
Pour rendre l'avenue plus attractive, le comité mise sur des projets commerciaux, dont le 52 Champs, un immeuble art déco qui abritait le Virgin Megastore.
C'était vraiment une sorte de paquebot échoué.
Philippe Chiambaretta, l'architecte du projet.
On aura avant tout les Galeries Lafayette. On trouvera des boutiques de luxe avec Dior, Chanel. Et sur le toit, c'est un restaurant qui sera ouvert aux Parisiens. Donc n'importe qui pourra aller dîner sur le rooftop avec une vue formidable sur les Champs.
Au total, une quinzaine de chantiers sont prévus, dont le plus grand temple Nike du monde, un Apple Store, un cinéma du futur, un Sofitel avec piscine sur le toit. Alors à condition d'avoir les moyens, il y aura vraiment tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Aux Champs-Élysées.
Voilà, Sébastien Sabiron sur les Champs-Élysées. Attention, un pic de chaleur est attendu sur toute la France ce week-end avec des températures entre 32 et 37 degrés. Le département du Rhône est placé en alerte orange canicule. Sébastien Léas y reviendra dans quelques secondes dans son bulletin météo. Notre conseil de lecture pour ce week-end enfin, Les guerres de mon père de Colombe Schneck. Elle vient de recevoir le prix Marcel Pagnol. Le père de Colombe Schneck, enfant caché pendant l'occupation, officier de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, époux menant une double vie, il avait pour habitude de dire qu'il ne faut pas parler des choses qui fâchent. C'était compté sans sa fille, devenue écrivain, Colombe Schneck, et qui a eu besoin, elle, de parler des choses qui fâchent. Ilana Moriouzef, cela donne un livre à la fois récit, roman et enquête.
Pendant plus de 25 ans, Colombe Schneck a eu cette croyance absurde que nous sommes nombreux à partager lorsque nous perdons un proche. Son père, mort, allait finir par revenir. Et puis un jour, sans qu'elle sache exactement pourquoi, cette croyance a laissé la place à une volonté de savoir. Qui était exactement ce père généreux, attentionné, mais toujours en fuite? D'une phrase, toujours la même, il esquivait les difficultés. On ne parle pas des choses qui fâchent. Alors commence une enquête minutieuse et obstinée.
C'est l'historien Yvan Jablonka qui m'a encouragée. J'avais beaucoup aimé son livre qui s'appelle « L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu » où il faisait ce travail historien, rigoureux, scientifique sur ses grands-parents. Et c'est lui qui m'a dit « Vas-y, vas-y, va aux archives ».
Voilà donc Colombe Schneck aux archives départementales de la Dordogne où son père enfant fut caché pendant l'occupation. Elle y découvre la turpitude des fonctionnaires qui ont collaboré, mais aussi l'héroïsme des gens ordinaires qui ont sauvé son père. Aux archives militaires, c'est la guerre d'Algérie qui lui saute à la figure. Son père l'a faite en tant que médecin.
Il n'en parlait pas. Et tout ce que je sais, c'est qu'il a dû soigner, parce qu'il l'a dit une fois à une amie, des prisonniers algériens torturés par l'armée française. Il fallait les soigner avant qu'ils soient transférés devant un juge. Et il les a soignés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
Et puis il y avait aussi la double vie, l'épouse, les maîtresses, que Colombe Schneck a d'ailleurs rencontrées, avant de s'autoriser enfin à considérer son père comme un homme et à vivre en adulte.
Choisi par Ilana Moriousef, Les guerres de mon père de Colomb Schneck, c'est paru aux éditions Stock. C'était la dernière page de ce journal. Et voici, le téléphone sonne dans quelques secondes après la météo avec Claire Servageant. Les médias, la jeunesse, Claire, c'est ça ?
L'éducation, aux médias et à l'information. Merci mille fois pour ce journal, Pierre Veil. Je sais que vous attendez les nouvelles de la météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Chaud devant.
Oui, déjà très largement au-dessus des valeurs de saison cet après-midi. Les températures vont encore progresser demain. Les maximales seront comprises entre 27 et 35 degrés en général demain après-midi, avec quelques degrés de moins sur les plages de la Manche. Et la chaleur va s'accentuer dimanche avec 26 à 32 degrés près de la Manche, des Pyrénées autour de la Méditerranée, en Alsace et en Lorraine. Mais partout ailleurs, il fera plus de 32 degrés avec 34 à 38 degrés du bassin parisien et de la Champagne, au centre-Val de Loire et à la Bourgogne, jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et au Vaucluse. On rappelle que Météo France a placé le Rhône en vigilance orange pour canicule.
Alors si j'ai bien compris, c'est un week-end au soleil, mais il y aura aussi quelques orages.
Oui, un beau et généreux soleil demain dans un ciel quasiment tout bleu. On notera juste quelques grisailles fugaces en début de matinée en bord de côte sur le Languedoc et plus localement sur le littoral de la Manche. Ciel un peu plus changeant, mais avec toujours de belles périodes ensoleillées en Bretagne et en Basse-Normandie. Le temps deviendra tout de même un peu plus lourd l'après-midi et des averses, voire des orages, risquent de se déclencher. En revanche, la soirée et la nuit suivante vont voir les conditions se dégrader près de l'Atlantique avec des averses orageuses. Ces averses tarderont à s'évacuer. La Bretagne et la Basse-Normandie dimanche et l'après-midi, le temps va devenir un peu plus chaotique sur les régions de l'ouest et de nouveaux orages sont à craindre, alors que plus à l'est, le soleil va continuer de briller sans partage.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France et bon week-end.
Tous les samedis de l'été sur France Inter, à partir de 16h,
des idées pour demain.
Valère Correa.
Le mode d'emploi pour faire sa transition vers un quotidien plus durable. Ce samedi, nous parlerons de cette société, du tout jetable et de nos poubelles qui se remplissent à vue d'œil. Et si on réduisait nos déchets pour faire des économies, protéger l'environnement, mais aussi notre santé.
Des idées pour demain.
Pour passer en mode zéro déchet, rendez-vous demain sur France Inter à partir de 16h.
À tous ceux convaincus à 100% que...
Les appareils connectés, ça marche jamais vraiment.
Mercedes-Benz va vous surprendre avec son nouveau Sprinter équipé de Mercedes Pro Connect. 100% connecté, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur.
Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer.
Le 13 a toujours porté chance à Camille. Elle est née un vendredi 13 à 13h13. Elle a eu son bac avec 13 de moyenne. Son resto préféré se trouve au 13 de sa rue. Et Florent était exactement à 13 mètres d'elle quand leurs regards se sont croisés. Et aujourd'hui, 13 mètres, c'est ce qui vient lui sauver la vie. Mais cette fois, ça n'a rien à voir avec la chance.
En roulant à 80 km/h au lieu de 90, vous gagnez 13 mètres en cas de freinage. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Hé papy, c'est quoi ça ?
Un appareil photo.
Mais les photos, ça se prend avec un téléphone.
Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache.
Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis.
19h22 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Comment apprendre à faire la part des choses entre les vraies infos et les fake news ? Comment lutter contre la théorie du complot ? Vaste question qui se pose chez nous et ailleurs et qui n'épargne pas les grands de ce monde puisque l'entourage de Donald Trump, on le sait, n'hésite pas à parler de faits relatifs. Cette question en tout cas interpelle les journalistes et les citoyens que nous sommes, d'autant qu'il y a désormais profusion d'informations ou de pseudo-informations sur le net et que certains prédateurs en profitent pour désinformer et même endoctriner. Il y a 3 ans, France Inter a décidé de s'engager à sa manière en s'adressant aux plus jeunes à travers le programme Interclasse dont on vient de parler dans la première partie de cette émission. Mais au-delà de ce dispositif qui nous tient à cœur, il y a bien d'autres initiatives dans les établissements scolaires et surtout un organisme qui coordonne tout cela, le centre, le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Son directeur délégué Serge Barbet est avec nous pour en parler. Bonsoir à vous, Serge Barbet.
Bonsoir.
Avec nous également Emmanuel Davier, délégué à l'éducation, aux médias, à la diversité et à l'égalité des chances, chargé du dispositif Interclasse ici à France Inter. Rebonsoir Emmanuel Davier.
Bonsoir Claire.
Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie au Collège Pierre de Jeter de Saint-Denis. Rebonsoir Yanis Roder.
Bonsoir.
Elena Pavel, professeur d'histoire-géographie au Collège Georges Rouault dans le 19e arrondissement de Paris. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Mehdi Moudan, qui est en première au lycée Sugère de Saint-Denis. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Claire.
Mehdi qui a pu bénéficier du programme Interclasse et qui est donc un pur produit Interclasse. Et puis on attend évidemment vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite direction le standard de France Inter pour un premier appel. Jonathan est en ligne de Vichy. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Alors, il faut savoir qu'en fait, que je suis du coup journaliste pour une radio associative locale qui n'est pas basée à Vichy, mais juste à côté, qui s'appelle Radio Coquelicot, et avec une
collègue très joli nom.
Merci. Et avec une collègue journaliste qui est basée, elle, à RTF Allier, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que nos jeunes du territoire n'avaient pas d'espace de parole, de véritable espace de parole, et on a eu l'idée de monter des émissions de radio citoyennes dans un quartier prioritaire de Vichy avec 12 jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a été un véritable succès, à la fois pour eux, pour les parents et pour nous. C'est un projet qu'on a monté à la fois avec donc des professionnels, des étudiants en journalisme et donc des jeunes adolescents. Et en fait, ce projet a vraiment pris corps, forme, a beaucoup résonné sur le bassin de Vichy et un peu ailleurs. Et si bien qu'on est monté à Paris, qu'on a remporté le prix Jeune Reporter des Sports en 2016 et qui nous a permis de créer une association qui aujourd'hui s'appelle le Micro des Ailes et qui propose plusieurs projets comme ça, des projets en fait d'éducation aux médias où on laisse la possibilité aux jeunes de devenir tour à tour journaliste, reporter, animateur, chroniqueur, photographe, mais tout en gardant une liberté de sujet et une liberté de point de vue. C'est eux qui choisissent leur sujet et nous, on est là pour les suivre et les aiguiller.
Je n'ai qu'un mot, bravo Jonathan pour cette initiative. Bravo à vous Serge Barbet du Clémy.
Formidable.
Vous connaissiez cette
Alors,
initiative ?
Je ne connaissais pas particulièrement cette initiative, mais cette initiative correspond à un mouvement de mobilisation citoyenne absolument extraordinaire et que nous promouvons évidemment parce que depuis 2015, et vous l'avez abordé tout à l'heure dans une autre émission, la question des attentats de janvier 2015 a été un électrochoc dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, nous bénéficions d'une multitude d'initiatives citoyennes. Celle-ci en est une, elle est exemplaire de ce que j'en entends. Et je ne peux qu'encourager effectivement ces protagonistes à la poursuivre, à la développer. Et puis évidemment, le Clémy, on l'a dit, est un coordonnateur. Il est là pour aider au développement, à la liaison avec l'école. Donc on sera ravis aussi d'être en contact avec eux.
Voilà, écoutez, Radio Coquelicot, c'est sûrement formidable. Un petit mot, Yanis Roder, sur ce déclic qu'ont été les attentats de 2015. Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a eu de beaux discours, est-ce que les moyens ont suivi dans l'éducation nationale, par exemple ?
Écoutez, si on regarde les programmes, pas vraiment. Si on regarde ce qui a été mis en place en termes d'outils, je crois qu'il y a néanmoins eu une prise de conscience et que notamment le Clémy a fait en sorte d'aider, d'être au plus près des enseignants qui en ont fait la demande afin de construire justement cet enseignement aux médias qui demande encore à être développé et qui demande encore à être construit.
Elena Pavel, vous qui êtes enseignante, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que des journalistes interviennent dans les établissements scolaires ou ça doit rester une affaire d'enseignants au sein de l'éducation nationale ?
Non, les journalistes sont évidemment nécessaires, tout simplement parce qu'à l'origine, on n'est pas formé pour ça. Lorsque vous ouvrez une classe média, on en a deux à Georges Rouault, on a des formations qui sont offertes par le Clémy, on a des rencontres, des visites de rédaction, mais après, on n'est pas nous-mêmes journalistes. Et en fait, le journaliste est un peu le tiers qui va légitimer cette éducation en média, puisqu'il va aider les élèves à fabriquer de l'information. Donc c'est l'étape d'après. Nous, on peut les former sur la recherche de la source, la recherche de l'info, la critique de l'image, qu'est-ce qu'une caricature, etc. Mais Interclasse intervient à un niveau supérieur quand même.
Mehdi, je disais tout à l'heure que tu étais un pur produit Interclasse, puisque tu as suivi le dispositif. Qu'est-ce qui t'a apporté ce dispositif ?
Eh bien, écoutez, c'est un dispositif d'abord que je trouve formidable, qui m'a ouvert beaucoup de portes, hein, notamment celle de Radio France. Donc entreprise au sein de laquelle j'ai pu effectuer plusieurs stages et puis observer le fonctionnement d'une grande radio comme France Inter, c'est quelque chose qui n'est pas offert à tout le monde. Et outre cette dimension, je pense que ça a apporté beaucoup de choses à la classe notamment et au groupe qui la constituait, puisque ça a apporté une certaine cohésion entre les élèves et bien sûr à certains qui n'avaient pas le bon art de s'informer, la correcte manière de juger, on va dire, les informations, celles qui sont véridiques et celles qui sont fausses.
Mais en quoi est-ce que c'est important pour former des citoyens ?
Eh bien, écoutez, on sait qu'on est dans une société qui évolue énormément, notamment avec le numérique et avec des fausses informations qui se répandent à une vitesse grand V aujourd'hui sur toutes ces plateformes. Donc, je pense que l'éducation et les programmes de l'éducation nationale doivent s'adapter à ce changement qui s'opère à une vitesse assez grande. Et c'est pour ça qu'on attend des institutions une grande capacité d'adaptabilité. Et c'est pour ça que c'est essentiel.
Et toi, tu veux devenir journaliste, c'est ça ?
Oui.
Je l'aurais deviné. Emmanuel Davier, on entendait tout à l'heure ce que nous disait Jonathan, en quoi l'outil radio est important pour les jeunes. Vous, c'est quelque chose que vous avez constaté à travers le dispositif Interclasse.
Mais ce que je trouve formidable avec cet outil radio, c'est que ça développe énormément de compétences transversales. C'est-à-dire que ça les oblige à prendre la parole, à formuler, à argumenter. C'est vrai que lorsque l'on débute les séances, on dit toujours aux élèves que lors d'une séance d'interclasse, ils ne seront jamais jugés. C'est-à-dire qu'ils peuvent absolument tenir tous les propos qu'ils souhaitent, ce qui donne tout de suite quand même la couleur et le ton de l'année qui va se dérouler au fil des séances. Et je crois que ça contribue beaucoup à l'instauration d'une confiance. Et donc, un élève peut s'exprimer, mais il doit impérativement argumenter. C'est-à-dire que s'il a un point de vue, il doit trouver les éléments qui vont arriver à convaincre les adultes et puis aussi ses camarades. Donc, ça oblige quand même à formuler des propos cohérents. Et c'est pas rien. C'est vrai que, je le répète, mais je demande, et tous les journalistes le font, qu'une phrase soit composée d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, ça semble rien, mais on leur explique que...
Et dans le bon ordre, si possible.
Dans le bon ordre, et qu'on va pas se contenter d'un oui ou d'un non ou d'un ouais approximatif. Et tout ça sera réutilisé ensuite lors de l'enregistrement de l'émission d'une heure qui sera diffusée sur l'antenne de France Inter. Donc quand on est face à un micro, il faut avoir un propos construit et cohérent. Donc vous imaginez bien tout ce que ça nécessite comme investissement intellectuel et de verbalisation. Donc effectivement, l'outil radio, je trouve, pour ça est formidable. Et puis on n'est pas dans l'image. C'est vrai que c'est une génération qui est complètement baignée dans l'image, dans un rapport parfois très superficiel. Et là, on est...
Ça fait des jeunes des acteurs surtout, hein. C'est ça qui est
totalement
important.
Ah mais ça c'est impératif. On ne fait pas pour eux, on le fait en fait avec eux. C'est vraiment très collaboratif et je pense que un élève qui veut s'emparer de cette possibilité qui lui est offerte d'accéder à cet univers, vraiment un peu, on en a un exemple avec nous, hein, Mehdi, moi je suis absolument éblouie par le parcours de Mehdi depuis qu'on s'est rencontrés à Saint-Denis, et c'est vrai qu'il n'est pas le seul, il y a d'autres élèves, certains, on ne va pas dire que ce sont des réussites à 100%, mais je dirais, et j'aimerais avoir le point de vue des enseignants, je dirais que dans une classe, 75% des élèves comprennent qu'il y a un bénéfice à tirer de cette participation et de cette aventure d'interclasse.
Promis, Emmanuel Davier, on aura le point de vue des enseignants dans un instant, mais on repart au standard du téléphone sonne. Cette fois, c'est Didier qui est en ligne depuis les Hauts-de-France. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Oui, donc je disais à vos collaborateurs que lorsque mon emploi du temps me le permet, j'écoute cette émission interclasse, que je trouve très bonne. La seule question que je me pose, c'est dans les reportages que j'ai entendus, c'est toujours limité à Paris et comment à sa banlieue. Bon, je reconnais le rôle du Clémy, etc. Je sais que des collègues enseignants, je suis retraité de l'éducation nationale, se lancent dans des radios disons locales, mais ça serait bien quand même que France Inter se déporte un petit peu vers les régions, parce que je crois que là, il y a des problèmes importants, peut-être pas aussi importants que dans les banlieues, mais qui risquent de nous retomber dessus dans quelques années.
Voilà. Merci beaucoup Didier pour cette question. Emmanuel Davier, Interclasse. Alors, trop parisien ?
Alors, évidemment, on peut nous en faire le reproche. L'interclasse, il faut comprendre que c'est une logistique tout à fait conséquente. La première saison et la deuxième saison, nous sommes allés à La Ferté-Gaucher, qui est quand même dans un territoire rural. Et puis, l'an dernier, nous étions également à Roubaix et à Marseille. Donc, on a fait des tentatives. Mais c'est vrai, je suis la première à le regretter, et à France Inter, nous le regrettons tous. C'est vrai que ça demande une logistique. Il faut quand même comprendre que les journalistes et les producteurs qui s'engagent le font en partie sur leur temps de travail, et que on a un métier à côté qui consiste aussi à nourrir une antenne. Et malheureusement, moi j'adorerais que l'on puisse le faire. Souhaitons que l'on puisse essaimer.
Il faut quand même préciser qu'on a un grand réseau qui s'appelle France Bleu et qui a aussi, du côté des radios locales de Radio France, des gens qui interviennent et qui font de l'éducation aux médias. Serge Barbet du Clémy.
Oui, je crois qu'on aborde là un sujet essentiel, c'est-à-dire la mesure de l'école. La mesure de l'école, c'est 12,5 millions d'élèves, effectivement, sur l'ensemble du territoire national, 865 000 enseignants. Et je crois qu'effectivement, l'action des 35 000 journalistes aux côtés des enseignants est fondamentale. Et en même temps, les enseignants ne vont pas remplacer les journalistes ne vont pas remplacer les enseignants. Les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information sur le terrain, ce sont les professeurs, ce sont les professeurs documentalistes, ce sont les enseignants dans les disciplines. On les a effectivement, tout à l'heure, Yanis expliquait, l'école a-t-elle évolué ? Oui, moi je vais être nuancé parce que l'école s'adapte à ces enjeux-là. On a effectivement réformé les programmes du collège, une réforme compliquée parce que qui change la forme scolaire, qui demande de travailler en petits groupes sur ces sujets-là, notamment en interdisciplinarité. C'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place, mais l'école a la volonté de le faire. On est aujourd'hui sur une réflexion autour de la réforme du bac, autour de la réforme du lycée, et effectivement, on parle des humanités numériques, et demain, on voit bien qu'on a un système scolaire, si on fait un pas de côté, qui essaye de répondre à ces enjeux-là. Nous, le Clémy, les acteurs médiatiques, avons un rôle très très précis, qui est effectivement, chacun à notre mesure, d'apporter notre expertise, effectivement, vers des enseignants qui vont vous dire « Moi, je n'ai pas la culture seule, effectivement. » Alors, il y a un enjeu de formation.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites au Clémy ? Vous formez les enseignants, c'est ça ?
Tout à fait. On a un enjeu de formation d'abord du premier, des enseignants du premier et du second degré. On produit également et on coproduit avec les mêmes partenaires médiatiques et un grand nombre de partenaires effectivement des ressources pédagogiques pour les y aider. Et puis nous avons également des actions éducatives dont la plus connue est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Mais véritablement, on a une diversité aujourd'hui de partenaires. Vous avez cité effectivement à l'échelle de Radio France, le France Bleu. Il y a aussi France Info. Et il y a aussi les acteurs de l'audiovisuel public. Il y a les acteurs de la presse et des médias privés. Tout cela aujourd'hui ont pris conscience véritablement de leur rôle, de leur responsabilité sociale en matière d'éducation et entendent le jouer de plus en plus. Nous essayons aussi, nous, de les convaincre qu'il faut effectivement intégrer cette dimension sociale et éducative dans leur projet éditorial.
Yanis Roeder, l'éducation aux médias, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas ?
Non, ça ne s'improvise pas, ça se réfléchit en amont et surtout quant aux objectifs qui doivent être poursuivis. Pourquoi cette éducation aux médias ? Tout enseignant qui se lance dans l'éducation aux médias, qui se lance dans une web radio, par exemple, beaucoup d'établissements aujourd'hui mettent en place des web radios, c'est une manière de travailler en fait hein, sur les médias, doivent, me semble-t-il, réfléchir aux objectifs, c'est-à-dire à quoi cela va servir. Au-delà de l'aspect ludique qui existe et qui est réel et qui peut être intéressant parce que les élèves travaillent autrement et c'est aussi important de temps en temps de changer un petit peu la manière de travailler, mais au-delà de cela, à quoi cela va servir ? Et donc réfléchir vraiment en amont aux objectifs pédagogiques et citoyens.
Par exemple, dans votre établissement, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez défini comme objectif et avec qui l'avez-vous fait ?
D'abord, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai contacté au moment où est né ce projet, j'ai proposé à une collègue, professeure de lettres, et donc bien sûr au chef d'établissement. On s'est réunis, on a réfléchi ensemble aux objectifs qui devaient être les nôtres à ce moment-là. C'est-à-dire, on va faire l'éducation aux médias, apprendre aux élèves, avec les journalistes, à savoir ce que c'est qu'une source, comment travailler sur les sources, comment les reconnaître, comment les différencier, comment les hiérarchiser, comment les croiser pour construire une information. On a couché tout ça sur le papier et à côté, on a fait un autre papier avec les objectifs citoyens et, disons les choses, politiques. Voilà, à quoi ça va nous servir ? Et donc, c'est l'idée du pluralisme, de la démocratie et de l'engagement citoyen.
Elena Pavel, ça s'est passé de la même façon dans votre établissement ?
Alors nous, on a d'abord décidé d'ouvrir des classes médias, parce que avoir le Clémy à ses côtés, c'est très bien, mais il y a quand même une donnée qui est très importante, c'est le temps. En fait, il faut avoir un chef d'établissement qui accepte de consacrer à son enveloppe d'heures, répartie entre les disciplines, des heures pour les classes médias qui vont être fléchées. Tout à l'heure, dans l'émission précédente, le collègue journaliste disait « C'est dommage qu'il n'y ait pas une matière de l'information, mais en fait, si, ça existe. » Ça s'appelle une classe média. Et dans une classe média, chaque semaine, pendant une heure ou deux heures, les élèves ont classe média. Et moi, je travaille avec ma collègue documentaliste. Et comme Yanis Roeder, en fait, on avance sur deux fronts. D'un côté, il y a de l'enseignement pur. On leur fait découvrir tous les médias par différentes séances pédagogiques qu'on prépare avec ma collègue. Mais surtout, on essaye aussi de les rendre acteurs de l'information. Ça passe par la production d'un mur numérique, ça passe par la rédaction d'articles. L'avantage de la radio, pour des élèves comme les nôtres, c'est que ça dépasse la difficulté de l'écrit. L'écrit, c'est une vraie barrière pour eux. Et la radio, du coup, contourne cette difficulté.
Mehdi, j'aimerais bien savoir, toi, aujourd'hui, après être passé par le dispositif interclasse, comment tu vis, quel est ton rapport à l'information ? Le matin, par exemple, comment tu t'informes ?
Eh bien, en écoutant la radio, même avant interclasse, j'écoutais la radio, mais c'est vrai que quelque part, ça m'a permis d'approfondir un petit peu plus, dans le sens où avant, je m'informais vraiment qu'avec la radio, et puis après, petit à petit, j'ai commencé à ouvrir quelques journaux, et c'est vrai que ça a diversifié mes sources d'informations.
Est-ce que ça t'a fait changer d'avis, par exemple, sur certains sujets, des sujets sur lesquels tu avais des idées préconçues, et puis à force de lire peut-être des points de vue différents, tu as fini par voir les choses différemment ?
Pas vraiment, non.
Non ?
Non, non.
T'es resté sur tes idées ?
Bah, mes idées, je sais pas si on peut dire mes idées, parce que...
Mais c'est pas honteux d'avoir des idées.
Non, j'avais pas d'idées préconçues sur certains faits, certains faits d'information. Par contre, c'est vrai qu'approfondir approfondir son information, ça permet d'en savoir plus.
Yanis Roeder?
Oui, c'est vrai que Mehdi, c'est pas le type d'élève qui posait des problèmes en termes de fake news.
Il n'était pas dans la théorie du complot à l'origine, quoi.
En revanche, il y en avait dans sa classe, on s'en souvient, je crois, Mehdi et Emmanuel, vous devez vous en souvenir, qui disait les journalistes sont des menteurs, les journalistes veulent faire du buzz, ou alors qui véhiculait carrément des théories de type conspirationniste ou complotiste. Cela, on a travaillé toute l'année avec eux, et je crois, j'ai l'heur de croire en tout cas, que le travail qui a été fait en profondeur, c'est-à-dire sur un temps long, et c'est extrêmement important de pouvoir le faire sur un temps long, Elena Pavel parlait du temps qu'il faut dégager, et c'est très important, les équipes de direction des établissements doivent comprendre que là se joue beaucoup de choses, au-delà simplement de l'aspect on va dire ludique, pour le répéter, il se joue beaucoup de choses, et il faut du temps, et c'est avec ce temps-là que nous parvenons à construire en déconstruisant les préjugés et les représentations.
On part au standard de
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonsoir, moi je suis journaliste et j'ai mené la toute première résidence de journaliste dans le nord de la France pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, j'ai pu constater à quel point les enseignants étaient très perdus sur la question de l'éducation aux médias. Sauf que quand on parle de former, d'apporter notre savoir-faire aux enseignants, c'est comme si le mot formation était absolument interdit pour les... J'ai entendu plein de fois cette réponse qui était... que ce n'est pas aux journalistes de former les enseignants, mais aux enseignants. Or, sur cette matière-là, ce serait bien qu'on nous fasse confiance sur la capacité de notre métier, sur notre savoir-faire. Je suis désolée, je bafouille un peu, mais je m'entends avec de l'écho. Ouais.
On a parfaitement compris, Valérie, votre message. Et Serge Barbet, vous avez écouté avec beaucoup d'attention en hochant la tête.
Oui, d'abord parce que je hoche souvent la tête, et puis ensuite parce que la question de Valérie est
Valérie
extrêmement effectivement extrêmement importante, parce que on a beaucoup évolué ces dernières années. J'ai en tête une association qui s'est formée véritablement, reformée après les attentats de janvier 2015, venue de journalistes qui se sont dit on a notre rôle à jouer auprès des enseignants Et effectivement, ça a été une grande émotion quand l'année dernière, effectivement, j'avais des enseignants face à cette association et qui leur a dit « Dépêchez-vous, parce que dans les plans académiques de formation, il reste encore quelques jours pour s'inscrire et on a besoin de cette formation. » Alors, il y a la formation initiale, effectivement, dans l'éducation nationale, pour ceux qui se prédestinent au métier et au beau métier d'enseignant. Et puis, il y a la formation continue également, qui est extrêmement important, hein, c'est-à-dire de se mettre aussi à la page au fur et à mesure. Et
bon, quand même bien entendu ce que disait Valérie, ça veut dire qu'il y a des enseignants qui n'apprécient pas forcément toujours de voir arriver les journalistes.
Mais je crois que ça a changé et je crois qu'on a vraiment évolué là-dessus parce que je crois qu'on a une perception aujourd'hui beaucoup plus intense et importante du rôle de l'éducation aux médias et à l'information dans le système éducatif. Vous interrogiez tout à l'heure effectivement un petit peu qu'est-ce que vous faites Yanis ou Elena avec vos élèves, quelle finalité, mais la finalité c'est les contenus, c'est quel modèle de société nous voulons construire, c'est quel futur pour nos démocraties. Je crois qu'à un moment donné, si on arrive à faire comprendre que l'enjeu véritable de l'éducation aux médias et à l'information, c'est tout simplement le rôle historique de l'école en matière de formation de citoyens libres et éclairés, je crois qu'on comprend l'enjeu beaucoup mieux. On peut se perdre derrière des mots techniques pour décrire l'éducation aux médias et l'information. Mais la finalité, elle est très simple et c'est un débat qui est vieux comme l'école. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes face à des évolutions. Nous sommes, comme l'a dit Mehdi, dans les sociétés du numérique. Et je crois qu'il y a des enjeux aujourd'hui de formation qui sont extrêmement importants. Et donc, le décloisonnement est quand même au rendez-vous. Et je vois beaucoup aujourd'hui cette association se faire concrètement sur le terrain. Donc, je veux rassurer notre auditrice et lui dire qu'elle peut... Mais il faut structurer les choses. C'est-à-dire que nous sommes à l'échelle de l'école. Et donc, ça demande de l'organisation.
Emmanuel Davier.
Non, mais j'entends quand même ce que dit notre consoeur, Valérie. Et c'est vrai que je la rejoins sur le constat. Il y a quand même des chapelles qui estiment qu'un journaliste n'a rien à faire en classe. Et je partage également l'analyse.
Vous êtes très en même temps, Emmanuel.
Je suis en même temps parce que je suis obligée de l'être. C'est-à-dire que le constat de Valérie est tout à fait juste et je l'ai entendu. Des journalistes n'ont rien à faire en classe et n'ont rien à faire dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Et depuis les attentats, je pense que la donne a profondément évolué et qu'il y a un constat d'urgence et que être adossé à l'expertise journalistique, ça peut aider des enseignants qui n'ont pas toujours les clés pour comprendre comment on fait de l'éducation aux médias et à l'information en classe. C'est pour ça que je suis en même temps et je l'assume totalement.
Yanis Roder, il y a quand même toujours cette question qui revient et on l'a vu cette semaine avec cette histoire de service national. On se prend la tête à se dire mais comment on forme les citoyens et on en revient toujours à la même question.
Moi, je crois qu'il faut former les citoyens en prenant le temps de les former. Et c'est-à-dire que peut-être qu'on doit avoir une réflexion un peu plus profonde sur les programmes scolaires, sur les rythmes scolaires aussi, sur le temps qu'on passe, sur les projets, justement. J'ai en tête la belle idée qu'avait le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem avec les EPI, hein, qui relevaient de la pédagogie de projet, en fait.
Explique ce que c'est, c'est-à-dire que c'est des projets interdisciplinaires.
Voilà. Interdisciplinaire, sur un thème précis, qui partait d'une très bonne idée. Sauf que de mon point de vue, le volant horaire qui était proposé n'était pas assez important. C'était 18 heures sur un semestre, ou voilà, ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire. Il faut quelque chose, il faut du temps long. Vous savez, nos élèves aujourd'hui sont dans le zapping permanent. On zappe tout le temps. Et on est dans on passe d'une chose à l'autre. L'école doit offrir un autre temps. Ça, c'est très important.
Et la fameuse réserve citoyenne qu'on a actionnée alors après les attentats de 2015, est-ce que, au niveau du CLEMI, par exemple, vous avez un petit peu supervisé ? Est-ce que vous avez une idée de là où on en est aujourd'hui ?
La réserve citoyenne, elle n'a pas été actionnée, elle a été créée. C'était un dispositif nouveau, elle n'existait pas. Et effectivement, je crois que c'était un mouvement d'ouverture de l'école qui correspond bien à la période que notre pays a traversée à travers les attentats de janvier 2015, notamment. Ça a été le détonateur.
Certaines des personnes qui se sont portées volontaires ont dit que c'est quand même très compliqué de travailler avec l'éducation nationale.
Parce que je crois, comme Yanis, que l'éducation est un temps long. Et que l'on n'entre pas effectivement à l'école comme au café de la gare, et que effectivement c'est quelque chose qui s'organise. Et effectivement, on a aujourd'hui un volet important de réservistes citoyens, et notamment du monde médiatique, c'est-à-dire des journalistes, des magistrats aussi, des retraités qui ont occupé des fonctions qui ont à voir avec la façon dont on peut transmettre à l'école effectivement ces valeurs de la République. Donc oui, la réserve citoyenne demeure un moyen, et j'ai reçu moi-même comme réserviste citoyen un mail hier matin pour une intervention en état.
Comme quoi, il y a des volontaires. On repart au standard de France Inter. Jackie nous appelle de Nîmes. Bonsoir Jackie, vous êtes là ?
Oui, bonsoir. Bonsoir Claire, bonsoir France Inter.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci. Alors bravo d'abord à France Inter de mettre en lumière l'importance de ce sujet de l'éducation aux médias. Et je ne peux qu'abonder dans le sens des derniers intervenants qui soulignaient effectivement l'importance de la formation à cette information qui remplace l'information verticale et filtrée d'il y a une quinzaine d'années. En 15 ans, nous sommes passés à une information multimédia, horizontale, et qui produit beaucoup de débats aujourd'hui, et un grand bazar au niveau de la clarté des idées sur l'évolution du monde. Alors, deux questions pour faire court. N'est-il pas indispensable pour l'avenir de former dès l'école, mais par des vrais programmes adapté et conséquent, et non pas quelques heures, et je salue l'initiative de vos intervenants, de quelques heures et de quelques informations par-ci, par-là, mais au contraire d'un véritable programme de l'éducation nationale qui soit mis en place, parce que c'est très important. Aujourd'hui, très jeune, on a un smartphone. Et deuxièmement, pour justement contrer ces fake news et parfois relayées par des industriels, par exemple, on va penser au problème du Dieselgate et des informations qui sont relayées par des grands groupes qui n'ont pas d'avenir dans l'évolution de notre planète et pour la jeunesse d'aujourd'hui. Effectivement, est-ce qu'il n'est pas encore plus important d'avoir des formations adaptées et notamment sur le domaine de l'écologie?
Merci beaucoup pour cette question, Jackie. Tiens, Elena Pavel. Sur la première partie de la question de Jackie Denis, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer à l'école, que ce soit dans les programmes, véritablement, partout, instaurer, instituer de manière formelle l'éducation aux médias et à l'information?
Si, ça serait possible, mais après ça pose aussi la question de qui l'enseigne, quelle formation pour les enseignants. C'est vrai que dans le cas des médias, c'est souvent les professeurs documentalistes qui s'en chargent ou les professeurs d'histoire géo. C'est quand même, ou parfois les profs de lettres aussi. Donc on va vers quand même des formations aux humanités, la plupart du temps. On a rarement des collègues de sciences qui s'en chargent. Donc évidemment, ça serait une belle idée, mais ça pose en termes de structure quand même des vraies questions.
On en revient toujours à la question qui s'occupe de l'instruction civique, qui s'occupe de l'éducation civique, etc., etc. Yannis Roeder.
Ce devrait être le rôle de tous les fonctionnaires de s'occuper de l'enseignement moral et civique. Et c'est comme ça que les programmes le conçoivent, d'ailleurs. Mais il se trouve qu'effectivement, ce sont un petit peu toujours les mêmes qui s'en chargent, qui s'en occupent, comme si les professeurs d'histoire, géographie, de lettres, de philosophie étaient ceux qui avaient une véritable conscience des enjeux politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce que je ne crois pas. Je crois simplement qu'il y a un problème de formation aussi des enseignants sur ces enjeux civiques, sur ces enjeux politiques.
Serge Barbet.
Nous sommes toutes et tous concernés et nous sommes les héritiers d'une école d'approche de l'éducation aux médias et à l'information en France et ailleurs dans le monde qui n'a pas forcément confié effectivement cet enseignement à une discipline, n'a pas souhaité l'enfermer. Je crois que l'évolution de la société est extrêmement intéressante. Nous avons de plus en plus de professeurs de sciences qui se lancent effectivement dans cette éducation aux médias et à l'information, tout simplement parce que quand nous parlons fake news, quand nous parlons théorie obscurantiste, qu'est-ce qui est remis en cause? Le darwinisme, un certain nombre de théories effectivement interviennent aujourd'hui où effectivement on voit qu'il y a une nécessité que tous les enseignants puissent aborder ces sujets-là. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Et pourtant, on a des travaux entre des professeurs de français, des professeurs d'histoire absolument remarquables en éducation aux médias et à l'information. Moi, je veux vraiment dire qu'il se passe beaucoup de choses.
Mehdi.
Alors oui, évidemment, moi je partage l'opinion de notre auditeur. Il faut instaurer une formation éducation aux médias spécifique à cet enseignement à l'école. Comme l'a dit Elena, ça soulève un certain nombre de questions, notamment liées à la formation, mais aussi à la question des moyens. Moi je parle en connaissance de cause. J'ai du mal à imaginer l'instauration d'une telle formation dans mon lycée, le lycée Sugère, où on a déjà un manque de moyens criant. Un manque de moyens humains pas possible, où on a du mal à travailler. Donc moi, je me demande vraiment comment on arrivera à instaurer ce genre de formation alors qu'on n'arrive déjà pas à transmettre les enseignements de base. Moi, je suis en première, j'ai pas eu de prof de français pendant un trimestre. Donc je me demande vraiment comment on pourra réussir à transmettre un nouvel enseignement alors qu'on n'arrive déjà pas à transmettre les fondamentaux.
Question fondamentale et essentielle que tu as posée, Mehdi, celle des moyens. On y revient toujours. Quelles sont les priorités dans notre société? Mais on repart d'abord au standard. Karma nous appelle de Bordeaux, c'est bien ça?
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci. Alors moi, je suis professeure de lettres dans le 93, même si je vous appelle de Bordeaux. Et cette année, j'avais des secondes et j'avais décidé, pour l'accompagnement personnalisé, l'AP, de monter un atelier média avec mes élèves. Et je voulais justement témoigner sur cette question du manque de formation des enseignants, puisque lorsque j'ai abordé avec les élèves la question de la fiabilité des sources, je me suis très vite retrouvée face à des réactions de leur part qui m'ont totalement déstabilisée.
C'est-à-dire,
j'avais demandé, par exemple, de revenir avec. On avait lu un article sur les différentes théories du complot. Ils étaient très nombreux à adhérer à une grande partie des théories, et je leur avais dit très bien, là pour la semaine prochaine, revenez avec des sources qui valident ou invalident une des théories auxquelles vous adhérez ou pas. Et une élève était revenue avec donc une source du ministère, je ne sais plus quel ministère, qui invalidait une théorie du complot. Et je leur avais posé la question, alors à votre avis, la source est-elle fiable? Et là, je m'étais retrouvée face à des réactions effectivement assez désarmantes, qui étaient en quoi une cite venant du ministère est-elle fiable? Vous, vous êtes payé par l'État, donc vous pouvez nous dire que c'est une source fiable, pourquoi on vous croirait?
C'est une bonne question, hein.
C'était une très bonne question et j'ai eu un mal fou répondre.
Et oui.
Et voilà. Et donc je serai à fond pour les formations des enseignants.
Merci mille fois pour cette question et ce récit qui en dit long effectivement sur des vraies questions auxquelles on est confrontés nous-mêmes tous les jours, nous les journalistes. Serge Brunet, qu'est-ce que vous lui répondez à Karma?
Barbet, mais j'aime bien Brunet aussi.
Je vous ai débaptisé, je suis désolé.
Pas de problème. Simplement, quand j'étais adolescent ou lycéen, quand j'avais besoin d'une information, j'allais pas la chercher au ministère de l'Intérieur. Et je pense effectivement que l'esprit critique aussi, il est très présent dans la jeunesse et c'est bien normal. On est à des âges de formation, on est à des âges de contestation, de remise en question. Tout l'enjeu aujourd'hui, effectivement, il est de la formation d'une éducation aux médias et à l'information dans un monde où effectivement le risque des manipulations, le risque effectivement de dérives liées à la profusion de l'information qui arrive sur tout type de support, effectivement, demande de la formation, de l'accompagnement, et le témoignage de l'enseignante ne fait que conforter aujourd'hui notre mobilisation.
Yannis Roeder, par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre.
C'est évidemment très compliqué de répondre à cette question, et je comprends le désarroi de ma collègue du 93, et ses difficultés, j'ai vécu et je vis souvent les mêmes, mais je crois que il y a une réflexion à avoir avec les élèves, avec les enseignants sur les objectifs de l'État. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce que l'information, comment fonctionne l'information et la construction d'une information dans une démocratie et dans un État dit totalitaire? Montrer les différences, montrer que le ministère de l'Intérieur n'a pas nécessairement, et faire comprendre que le ministère de l'Intérieur n'a pas nécessairement l'intérêt à manipuler telle ou telle information, parce que quel est l'intérêt de l'État en France? C'est le maintien de la démocratie. Donc tout cela, ça doit être réfléchi, ça doit être appris, ça doit être... Mais là, encore une fois, il faut du temps. Il faut du temps, et ce temps-là nous manque.
L'émission touche à sa fin, le temps nous manque là aussi, même si on a passé 2 heures sur ce sujet. Une petite conclusion rapide de la part de chacun. Emmanuel Davier, la priorité pour vous, qui avez déjà fait beaucoup?
La priorité pour moi, c'est de poursuivre cet engagement citoyen. Et juste pour revenir d'un mot à ce que indiquait notre auditrice, et c'est vrai que nous aussi on l'entend en classe, je pense que pour faire de l'éducation aux médias et à l'information, il faut être extrêmement préparé émotionnellement et intellectuellement. Et émotionnellement, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une remise en cause absolue des attentats et du mode opératoire, je vous assure que ça secoue même quand on est un adulte aguerri.
Mehdi, en guise de conclusion.
Écoutez, moi je pense que pour donner plus d'efficacité à la formation et l'éducation aux médias, il faudrait généraliser dans toute la société, dans son intégralité, notamment auprès des associations qui animent les quartiers, et peut-être qu'une coordination entre ces acteurs locaux dans les quartiers et dans le monde rural également, avec l'école, pourrait apporter une plus grande plus-value pour les élèves.
Toi, tu vas être embauchée au ministère sans tarder. Hélène Pavel, votre conclusion à vous.
Moi, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Yannis Schroeder et évidemment sur ce qu'a dit Mehdi. D'un côté, le temps peut permettre de tisser un lien de confiance. Il faut une confiance entre l'élève et l'enseignant. Et ensuite, il faut aussi que l'enseignant ne soit pas vu comme un fonctionnaire. C'est ce que se disait la collègue. Et du coup, ça pose la question de l'image de l'État dans certains territoires, en fait.
Serge Barbet.
Élever notre niveau de jeu collectif, chaque acteur de la citoyenneté, effectivement, les enseignants, les journalistes, je crois que, effectivement, il y a une mobilisation, elle s'inscrit dans un contexte relativement grave, et je crois qu'il faut mettre l'accent sur la formation, la transmission, la connaissance.
Merci mille fois à vous tous pour vos interventions ce soir. Merci à ceux qui nous ont appelés. Merci à ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette saison. Irène Menahem, Juliette Gou, Djoubaka, Jimmy Bourquin, Antoine Liffaut et ce soir Simon Aresta. Merci aussi à nos jeunes standardistes, à nos vénérables techniciens, Stéphane Beaujat, Ludovic Asselot, Philippe Duclos, Henri Bérec. N'oubliez pas, dimanche 16h, émission spéciale Interclasse présentée par Emmanuel Davier. À partir de lundi à 18h, vous retrouverez le Mac de l'été, émission culturelle de Julia Molcou. Une semaine en France reviendra à la rentrée. Pour ma part, je vous dis à lundi pour le téléphone sonne qui sera consacré aux 80 km/h. Aïe, 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 ça promet.